Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
La semaine passée, on célébrait Christ le ressuscité. Est-ce qu'on continue à vivre à la lumière de cette vérité? J'espère que, en tant que disciple de Christ, notre désir, ce n'est pas simplement une fois par année se rappeler qu'il est ressuscité, mais c'est vivre au quotidien à la lumière de cette vérité. Il est véritablement ressuscité et au travers de son Saint-Esprit qui est rendu disponible, nous pouvons vivre avec lui, ce qui fait partie de ses promesses, n'est-ce pas? Il a dit « Et moi, je ne vous laisserai jamais seul ». Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Je vous dis ça simplement pour vous rappeler. N'oubliez pas, ce n'était pas seulement la semaine passée qu'il est ressuscité, il est toujours ressuscité. Ça marche. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Alors, si vous n'êtes pas familier avec Home et comment on fonctionne, en général, on a des séries, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, on approfondit un petit peu plus un thème, une thématique, une réflexion. Ça nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Et cette nouvelle série s'appelle « De génération en génération ». Et on va du coup parler de génération, surprise. On se réjouit de pouvoir faire ça. Mais il y a une chose particulière, c'est aussi que ce n'est vraiment pas tout le temps le cas. Cette série, elle sera uniquement sur les dimanches matins. Les dimanches soirs, ils auront une autre série en parallèle qui sera aussi celle-ci uniquement le dimanche soir. Donc tous les messages seront disponibles en tout cas en audio. Mais comme ça, vous savez, ça vaut la peine de rester le matin si vous voulez suivre la série. Ensemble, en fait, ce qu'on veut, c'est réfléchir à ce que ça peut signifier et ce à quoi ça peut ressembler d'être une église pour toutes les générations. Une église de génération en génération, une église qui dure et qui va continuer à durer. Et ce matin, j'ai envie de vous parler un petit peu à partir de mon cœur, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Si vous n'êtes pas nouveau ici, si vous avez l'habitude d'être là, c'est des choses que vous avez déjà entendues. La plupart d'entre vous, vous avez entendu qu'on veut penser et vivre l'église comme une famille. Et c'est exactement avec cette idée-là, la famille c'est intergénérationnel, une famille ça ne s'arrête pas à moi, ça va se poursuivre après, au-delà de moi, avec ce que je vais laisser avec mon héritage. Et on va creuser ensemble ça, mais je vous le dis tout de suite, mon envie c'est que dans nos cœurs, il y ait un désir de vivre cela. Et pas seulement dans nos cœurs, mais que ça se traduise par des choses concrètes qu'on va vivre dans nos quotidiens. Je crois que si vous regardez la société autour de nous, il y a beaucoup de crises en ce moment. Alors, c'est un mot qui est devenu très à la mode depuis le Covid, mais en fait, il n'y avait pas que la crise sanitaire du Covid, il y a plein de crises qui ont lieu. Et je pense qu'une des crises qui a lieu, un des enjeux qu'on voit ces derniers temps, c'est notamment l'enjeu des générations. Il y a un gap et un fossé toujours plus grand entre les générations. Alors, si vous êtes sociologue, vous savez que ça vient notamment avec celle qu'on a appelée la génération Y. Il semble qu'il y a vraiment un fossé plus important entre cette génération et celle qui la précède, les X. Pour ceux qui ne connaissent pas, les sociologues ont cherché très loin. Et sans dire l'alphabet, c'est bien. Donc voilà. Et puis maintenant, on voit vraiment ça. On voit d'un côté les jeunes, d'un côté les moins jeunes. On voit cette tension à vivre entre ces générations. On voit de plus en plus de déconnexion. Il y a des phrases qui ressortent maintenant qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont très tendances en même temps. Par exemple, peut-être que vous avez entendu la fameuse phrase « c'était mieux avant ». Vous avez déjà entendu ça, peut-être vous l'avez dit vous-même. « C'était mieux avant ». Alors, sachez que historiquement, on a des sources qui datent de environ 2000 à 6000 ans avant Jésus-Christ qui disaient déjà « c'était mieux avant ». Alors, on est mal parti, c'était forcément mieux avant, c'est nul maintenant. Voilà, ça semble être toujours le cas. Puis, il y a une autre expression qui a été rendue populaire avec notamment Internet, c'est « ok, boomer ». Il y en a qui ont entendu ça ? C'est les jeunes qui sont un petit peu là « ok, c'est bon les vieux, on a compris, c'est bon hein ». Ça, c'est le genre de slogan dans lesquels on est aujourd'hui, puis qui marque un petit peu ce gap, ce fossé, cette rupture entre les générations. Et si on est honnête, c'est pas facile de se tenir malgré des différences qui sont réelles, des fonctionnements qui sont différents, des attentes face à la vie qui sont différentes, des façons d'appréhender le quotidien qui sont différentes. C'est vrai ça. Mais je crois que c'est un enjeu qu'on doit relever justement ensemble. On ne peut pas juste se cantonner au camp, d'un côté les jeunes, d'un autre côté les moins jeunes, et puis tant pis, nous on est meilleurs, vous êtes moins bons. Ce n'est pas ça l'idée. Peut-être certains le savent ici, je vous disais c'est très personnel parce que En ce moment, j'ai une casquette au dehors de celle de l'église, puis de mon rôle de pasteur, c'est que je suis le directeur de la rencontre jeunesse. Et ça veut dire que c'est une rencontre qui existe depuis une trentaine d'années, et ça veut dire qu'au travers de ce que je fais au quotidien, je réfléchis à comment est-ce qu'on peut équiper, accompagner, rassembler la jeunesse. Donc je suis directeur de la rencontre jeunesse, je suis aussi un professeur à la formation jeunesse. J'ai beaucoup de casquettes qui m'amènent finalement à travailler avec la jeune génération. Et des fois, on m'invite en disant « le pasteur jeune ». Alors, je ne sais pas comment comprendre ça, parce que je suis de moins en moins jeune, force est de constater. Moi, je le sais, merci de me trouver toujours jeune, c'est cool, mais la vérité, c'est que je vieillis comme vous tous, et puis que certains des jeunes m'appellent « monsieur », me disent « oh, vous êtes là ». Pourquoi vous ? Pourquoi ? Je suis venu seul pourtant. Et des fois, je dis en rigolant, je suis plus vieux que Jésus, parce qu'il a fini son ministère à 33 ans. Donc, je ne sais pas si je suis tout à fait adapté, si je suis encore vraiment jeune, mais j'ai un cœur pour la jeunesse. Il y a une réalité que, ici, plusieurs savent, parce que vous connaissez mon histoire, mais c'est l'humour de Dieu, on dira. Parce qu'en fait, j'ai quitté l'église plus jeune à cause de la jeunesse. Alors que j'avais l'âge des groupes de jeunes, je suis parti parce que je trouvais les groupes de jeunes horribles. Et je suis revenu à l'église à cause de deux dames qui s'appelaient Marthe et Léa, qui avaient largement l'âge d'être mes grands-parents. Et je suis revenu à l'église dans une église où il y avait deux jeunes. Sachant que je suis un de ces jeunes-là, ça veut dire qu'il y avait peu de jeunes. Et j'ai été complètement guéri de beaucoup de blessures dans une église où il n'y avait pas du tout de jeunesse. Donc quand je vous parle de ça, c'est en même temps j'ai un cœur pour la jeunesse et en même temps j'ai un amour énorme pour la génération qui nous précède. Cette idée d'intergénération est profondément marquée dans mon cœur et pour moi c'est une des composantes nécessaires si on veut voir le royaume de Dieu avancer sur la terre aujourd'hui. La plupart des chrétiens disent « Seigneur, envoie des ouvriers ». La plupart des chrétiens disent « on veut participer à l'effort d'évangélisation ». La plupart des chrétiens disent « on veut voir le royaume de Dieu avancer ». Bon, ce matin, j'ai envie de vous dire « ça se fera seulement si on travaille vraiment ensemble ». Je crois qu'il y a quelque chose ici qu'on doit réaliser. La façon qu'on a de travailler ensemble est directement connectée avec l'avancée du royaume de Dieu. Je déteste l'idée que certains ont qu'ici, on est une église de jeunes. Des fois, on me le dit et à chaque fois, c'est vraiment… Il y a peu de choses qui m'énervent, mais ça, c'est une des choses qui m'énerve. Parce que je crois que ce n'est pas du tout possible, en fait. Quand je lis la Bible, je ne vois pas l'église des jeunes, l'église des vieux, l'église des bébés. Non, je vois juste l'église. Et on veut juste être l'église, en fait. Et si Dieu nous donne une responsabilité, puis un mandat particulier avec une population plus jeune, très bien. Mais on veut juste être l'église, c'est tout. On ne veut pas être une église de jeunes. On veut être l'église. Alors, je vais encore aller un cran plus loin. Et là, je m'adresse aux jeunes. Tous ceux qui ont l'âge d'être jeunes. Tous ceux qui se sentent jeunes dans les cœurs. Les amis, c'est impossible d'avoir les percées qu'on veut dans la vie si on ne travaille pas avec la génération qui nous précède. C'est fondamental, puis c'est de ça que je veux parler ce matin. On ne peut pas aller seul. Et je sais, beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas aller seul, mais c'est bien. Mais j'ai envie de vous dire, si on veut voir le réveil, si on veut entendre les gens parler de Dieu, on veut entendre les gens revenir à la maison, on veut voir les cœurs se tourner, c'est impossible. Une des clés, ça va être comment est-ce qu'on travaille avec les générations qui nous précèdent. Et pour la génération qui nous précède, une des clés, ça va être quelle est votre posture. Comment est-ce que vous vous tenez avec les jeunes? Alors c'est ça un petit peu de ce qu'on veut voir. Alors maintenant, quelques mots en préambule encore. C'est important qu'on comprenne quelque chose. On façonne notre vie d'église ici. On pense à nos programmes, on pense à nos styles, on pense à notre communication, on pense à nos activités de façon à ce que ça puisse atteindre la jeune génération. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Puis des fois, ça crée des frustrations dans l'église quand on parle de ça. On veut que les jeunes trouvent leur place ici, on veut que les jeunes se sentent à l'aise ici, on veut que les universitaires trouvent leur place ici, on veut que les jeunes couples et les jeunes familles trouvent leur place ici. C'est super important pour nous. On veut les accueillir, on veut les accompagner, on veut marcher avec et on veut surtout pas qu'ils entrent ici en disant « c'est une église merveilleuse pour mes grands-parents ». Non, on veut qu'ils trouvent leur place ici puis qu'ils se sentent vraiment à l'aise ici. C'est peut-être pour ça que certains pensent qu'on peut être une église de jeunes, ce que je ne crois pas. On va lire la Bible, mais il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que Dieu nous a donné de travailler avec différentes communautés. Puis c'est important que je dise ça en préambule. J'accompagne des fois des pasteurs qui prennent le relais après un autre pasteur, d'accord ? Donc c'est bien. Ce n'est pas des temps de crise. Souvent, c'est simplement un pasteur qui arrive gentiment à la retraite, l'âge qui avance, et puis il y a un jeune pasteur qui prend sa place. Et il se trouve que souvent, je vais accompagner ces pasteurs-là, et il y a toujours un enjeu. C'est que l'Église dit, on veut de la fraîcheur, on veut de la jeunesse, viens nous surprendre, et puis après un petit moment, l'Église dit, ça change trop. Ça bouge trop. Puis souvent, on a une génération plus âgée qui dit, et nous alors ? On se sent oublié, on se sent délaissé. Et ça, alors, ce n'est pas un problème ici, mais c'est quelque chose qu'on voit. Il y en a certains qui disent, c'est plus l'église que je connaissais. Je ne me sens plus forcément à ma place. Je me sens un peu délaissé. Puis si on creuse un peu, on entend des fois, ce n'est pas tout le temps, mais on entend des fois, c'est nous qui avons construit cette église, bon sang. C'est nous qui payons pour cette église, bon sang. Ces jeunes, ils n'ont même pas d'argent. Ils ne donnent même pas la dîme. Ils ne sont pas loyaux. Et maintenant, on fait tout pour eux. J'entends des fois ça. Et voilà la réalité. Je crois que c'est possible que les plus âgés réalisent qu'ils ne sont pas forcément les premiers bénéficiaires. Je crois que c'est tout à fait possible. Mais je crois que ce n'est pas grave aussi. Je crois que malgré tout, tu peux trouver ta place. Tu peux te sentir bien, tu peux contribuer, tu peux voir le royaume avancer, même si tout n'est pas fait pour toi. Puis c'est important que j'en parle parce que c'est comme dans une famille. Depuis que j'ai des enfants, il y en a qui ont des enfants ici ? Ok, il y en a qui ont des neveux nièces ici ? Ok. Il y en a qui ont déjà vu des petits-enfants dans un appartement. Ok. Vous voyez de quoi je parle, alors c'est bon. Depuis que j'ai des enfants, il y a beaucoup des choses de mon quotidien qui ne sont plus faites pour moi. Par exemple, les menus. Quand je pense aux menus pour les repas, je ne pense pas d'abord qu'est-ce que moi j'aime. Je pense d'abord qu'est-ce qu'ils vont manger. Puis comment est-ce qu'on va réussir à les avoir pour qu'ils mangent quand même leurs légumes. Je te donne un autre exemple, la voiture. Depuis que j'ai des enfants, et particulièrement depuis que j'ai eu des jumeaux, la seule question c'est est-ce qu'on peut tous les mettre en sécurité dans un véhicule ? C'est pas tellement quelle couleur, c'est quoi le moteur que tu as. Je veux juste les transporter du point A au point B. J'ai 4 enfants, c'est compliqué, d'accord ? Il faut de la sécurité, c'est juste ça qui compte pour moi. Autre exemple, dernier exemple, les vacances. Tu sais que ça fait longtemps que j'ai plus pensé qu'est-ce que moi j'aimerais pour les vacances. Ça fait longtemps qu'à chaque fois que j'entends que les vacances scolaires s'approchent, il y a une anxiété en moi. Ok, je vais devenir un peu un animateur du Club Med, il faut que je trouve des activités, des choses, machin. C'est parce que les enfants se lèvent. Moi j'ai des jeunes enfants, ils se lèvent à une heure qui n'est pas raisonnable. J'ai envie de leur dire, mais les gars, c'est les vacances, profitez. Eux me disent justement, c'est les vacances, à 6h30, il n'y a rien de mieux de faire que d'être debout. Et ça fait longtemps en tant que papa que je ne me suis pas dit... Bah quand même, ils ne contribuent à rien ici. Ce n'est pas eux qui amènent l'argent quand même. Non, pour moi, c'est normal. C'est normal parce que je suis papa, vous comprenez ? Et parce que je suis papa, je ne suis pas en train de dire « j'ai plus ma place dans cette famille. On ne fait plus des vacances pour moi. Ce n'est pas la voiture que j'aimerais. » Non, je suis là. Ok, c'est pour vous là, c'est pour vous. Je suis en train de... Et j'aimerais dire ça parce que c'est important d'avoir cette attitude en fait. Dans l'église, c'est important d'avoir cette attitude. On a notre place, on a des choses à contribuer, mais et qui est-ce que le Seigneur veut nous emmener ? Comment est-ce que ça va être pour eux ? Comment est-ce que ça va se passer pour eux ? Vous savez, quand je regarde les gens qui bossent à la technique ici, les gens qui bossent avec le design, par exemple, des fois, les gens viennent vers moi, « Tu penses quoi de ce design ?» Et je suis là, « Je ne sais pas, demande à un jeune, parce que moi, j'y comprends rien aux réseaux sociaux. J'ai aucune idée, en fait. Si tu penses que ça marche pour les jeunes, vas-y, fonce. » La technique, là, c'est un univers mystérieux, là-bas, derrière. J'essaye des fois de m'approcher, je ne comprends rien à ça. Et c'est OK parce que ma question, c'est plus, est-ce que les jeunes qui vont venir, est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se passe ici ? Est-ce que ça va les rejoindre ? Et c'est important parce que statistiquement, la plupart des gens de 50 ans et plus, soit vous connaissez déjà Dieu, soit ça va être très dur de vous convaincre que Dieu vous aime malgré tout. La plupart des conversions, ça c'est statistique, hein, la plupart des conversions, la plupart des gens qui ont leur vie transformée, ça se passe avant leurs 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des vies transformées après les 30 ans, mais ça veut dire qu'il y a un focus à mettre là. Qu'est-ce qui se passe pour les gens avant ? C'est là qu'il y a des décisions qui sont clés. Vous savez, j'ai une personne que je connais qui a plus de 50 ans, plus de 60 ans maintenant. on parlait ensemble de la foi. Et la personne était profondément touchée. Elle avait les larmes aux yeux et elle me disait, j'ai fait trop de bêtises pour que Dieu m'accepte aujourd'hui. Ça voudrait dire changer toute ma vie. Et je n'ai pas la force de changer toute ma vie. La personne avait bien réalisé, mais en d'autres termes, elle me disait, je suis trop vieille pour ça. Mais ça, vous ne l'avez pas avec la personne qui a 23 ans. La personne qui a 23 ans, elle dit, on y va, on va changer le monde, on fonce. Donc c'est important de comprendre ça, c'est important de réaliser ça. J'aimerais terminer avec une image. Plusieurs ici, vous l'avez vécu ou vous le vivez. Mais comme je l'ai dit, quand vous pensez au fait de devenir parent, tout change. Tu penses ton lieu de vie, tes finances, tes vacances, tout change. Tes priorités ne sont plus les mêmes. Et j'aimerais vous dire, Dieu veut lever et emmener une génération dans cette maison. Dieu veut emmener une génération dans son église. La question, c'est est-ce que nous, on est prêts pour accueillir cette génération? Est-ce qu'on est prêt à dire tout va changer? Parce que c'est pour cette génération, en fait. C'est plus à propos de nous maintenant. La plupart, vous connaissez ça, mais si vous entrez chez moi aujourd'hui, beaucoup, vous êtes déjà venus chez nous, on a pensé notre appartement, la seule question, c'était est-ce qu'on peut avoir le contrôle sur ce qui se passe ici? Et du coup, on a pris une pièce centrale qui était le plus large possible, et on a littéralement encore maintenant un mini toboggan. Quand tu arrives chez moi, tu comprends qu'ici, il y a de la place pour les enfants. Tu comprends qu'ici, il y a de la vie pour les enfants. Et moi, j'aimerais vraiment que cette église soit orientée de cette façon-là. Quand on arrive ici, on dit, ici, c'est pour les jeunes, ici, c'est pour... Mais ça ne veut pas dire que les moins jeunes n'ont pas leur place. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre leur rôle et leur place. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne la Bible ensemble, ça va? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, je m'excuse, on va lire la Bible maintenant. On va aller dans Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, on va aller au chapitre 17 et on va lire les versets 8 à 13. Vous verrez, c'est une histoire où il y a des combats, des défis, des bagarres. Restez avec nous, ce n'est pas trop long, puis je vous donnerai un tout petit peu de contexte juste après. Exode 17, les versets 8 à 13, et ça va s'afficher aussi au-dessus de moi. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. » Josué part se battre contre les Amalécites comme Moïse l'a commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Hur montent sur la colline. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il les laisse retomber, pardon, les Amalécites sont les plus forts. Les Israélites sont les plus forts quand Moïse a les bras levés, pardon, et quand il laisse retomber ses bras, c'est les Amalécites qui sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Hur prennent une pierre et ils se placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Hur, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Ainsi, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. On est dans un épisode un peu surprenant, je l'ai dit, c'est un conflit. Et en fait, pour comprendre, le peuple d'Israël sort de tout un temps en Égypte où ils étaient esclaves. Et quand ils sortent, alors il y a plein de choses qui expliquent ça, ils sortent, c'est remarquable, c'est Dieu qui ouvre la voie littéralement pour eux. Et quand ils se retrouvent là, il faut comprendre que les Égyptiens leur ont donné beaucoup d'or et d'argent. Donc vous avez un peuple d'anciens esclaves qui se retrouve dans un lieu désert un petit peu, avec beaucoup d'argent. Et là, ça veut dire que les gens autour ont comme envie, ok. Là, il y a de l'argent pour nous, il y a de l'argent facile à se faire, on va aller. Et puis, il y a beaucoup de conflits dans cette période-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que ici, on est dans les premières batailles après l'Égypte. Et dans ce contexte, on voit Moïse, qui représente les générations des anciens, avec Aaron et Hur. Et on voit Josué, qui représente la jeune génération. D'accord? Vous voyez un peu l'image? Et j'aimerais souligner juste quelques éléments avant qu'on entre pleinement dans mes points. Notez que la victoire ici, elle est connectée au fait de travailler entre les générations. C'est extrêmement clair dans cette illustration-là. Dans ce combat-là, c'est on ne peut pas passer autour. Il fallait que Moïse ait les bras levés. Si Moïse baissait ses bras, la jeune génération perdait. Mais quand Moïse levait ses bras, la jeune génération gagnait. C'est aussi intéressant de noter, à un moment donné, Dieu va envoyer du renfort. Et vous et moi, si on en pense à un combat, une guerre ou quoi, à qui est-ce qu'on envoie du renfort? À ceux qui sont en train de se battre. Mais ici, c'est tout à fait l'opposé qui se passe. Moïse envoie du renfort, Dieu envoie du renfort à Moïse. C'est Aaron et Hur qui viennent aider Moïse. Assieds-toi, Moïse. On va tenir tes bras, Moïse. On a compris ce qui se passe. C'est vraiment intéressant de noter ça. Il ne dit pas, bon, je vais envoyer des nouveaux soldats. Non, non, j'ai envoyé des gens à Moïse. C'est intéressant de noter aussi que Moïse dit à Josué quoi faire. Mais il ne va pas dire, maintenant, Josué, il y a des gens qui viennent nous attaquer. Va te battre, moi je vais me cacher. Non, Moïse dit, va te battre, moi je vais prier. Toi, tu as un combat à mener, moi j'ai une prière à tenir. Et c'est quand on sera ensemble qu'on va avoir la victoire. C'est vraiment important de voir ça. Et finalement, c'est intéressant aussi de noter que Josué a obéi à Moïse. Josué a dit à Moïse, je vais faire ce que tu me dis de faire. J'ai confiance en toi. Alors que c'est lui qui prenait les risques au passage. Hein. Le risque direct, c'était pour Josué. Mais Josué l'a fait quand même. Alors avec ces remarques, voilà mon premier point. La sécurité et la victoire de la jeune génération dépend de la posture et des mains de la génération qui la précède. C'est un long point, je le répète. La sécurité et la victoire de la jeune génération dépend de la posture et des mains de la génération qui la précède. C'est extrêmement important qu'on réalise ça. Ce récit nous donne une image et une réalisation de ce à quoi se doit ressembler des générations qui œuvrent ensemble. Je vais le dire autrement, ce n'est pas important la force et la compétence des jeunes générations si l'ancienne génération ne se tient pas avec elles. On ne nous dit pas « Josué était un super-héros de la bagarre. » là. On ne nous dit pas « il était un super-guerrier », on nous dit « il a réussi à gagner parce qu'il y avait une génération qui priait pour lui. » La victoire de Josué dépendait de la posture de Moïse. De la même façon, ça ne fait pas grand-chose d'avoir une génération plus âgée qui a la bonne posture si la jeune génération ne va pas au combat. On a besoin des deux. On a besoin des Josué qui vont au combat et on a besoin des Moïse qui prient. Je vais le dire autrement, je vois que vous ne comprenez pas. Si Moïse avait dit « on va intercéder, on va faire jeûne et prière, on va sur la montagne et on prie et ce sera bon », il n'y avait pas de victoire. Mais si de l'autre côté, Josué allait dire « bon écoutez les vieux, cachez-vous, prenez les femmes, nous on va aller faire la guerre », il n'y aurait pas eu de victoire. Il y avait besoin que chacun prenne la bonne posture et travaille ensemble pour qu'on puisse avoir la victoire. La victoire va nécessiter que chaque génération joue son rôle. Et ça c'est très important, c'est pour ça que dans les exemples que je vous donnais avant, souvent quand j'arrive dans des églises où il y a des changements de pasteurs, souvent je vais prêcher dans ces églises et je dis à ceux qui ont voté, ceux qui ont accueilli, ceux... Maintenant, laissez ce pasteur faire son boulot. Et vous, couvrez-le dans la prière. Chacun sa position. Chacun sa posture. Chacun son rôle. C'est qu'ensemble que vous allez gagner. Je vais le répéter ici, mais la clé de ce que Dieu veut faire ici, à Lausanne, au milieu de nous, ne dépend pas tellement de la jeune génération. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas d'être une église de jeunes. Ça dépend beaucoup plus de est-ce qu'il y a une génération qui est capable de l'accueillir, de l'aimer, de la couvrir, de prier pour elle, afin qu'on puisse ensemble entrer dans ce que Dieu a pour nous. Ça, c'est la clé. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire « on doit développer des cœurs de parents. » On doit développer des cœurs de parents. On doit développer des cœurs de parents. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire « hey, ça fait un moment que tu es chrétien, deviens parent maintenant. Deviens parent spirituellement, grandis maintenant. C'est plus tout pour toi. » Vous savez, j'ai des gens dans ma vie qui ont fait ça et ça a bousculé ma vie. Je me souviens d'une femme... je vous ai parlé de Marthe et Léa qui m'ont accueilli à l'église. Dans cette église, il y avait une femme qui s'appelait Marie-Marthe. Déjà, le nom Marie-Marthe, tu comprends que ses parents savent. Ceux qui ont la référence comprennent. Marie-Marthe. Marie-Marthe, elle était largement à la retraite. Et moi, j'étais un jeune, et vraiment, j'étais un jeune, alors je le dis avec beaucoup d'humour, mais j'étais un jeune voyou. Il y a un jour, une personne âgée qui est venue dans l'église et qui m'a dit, vous voyez les deux différences, il y en a un qui m'a dit, avec ton look de paumé, tu iras nulle part dans la vie. J'avais 17 ans. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça peut faire à un cœur d'un jeune de 17 ans quand quelqu'un lui dit ça. Horrible, horrible. Mais de l'autre côté, j'avais une Marie-Marthe qui a dit, il faudrait qu'Yves s'occupe de la jeunesse dans cette église. Et puis elle était toujours là. « Allez Yves, vas-y, fonce !» Et elle travaillait depuis plus de 30 ans dans l'école du dimanche. Et quand j'ai pris le rôle d'être responsable enfance et jeunesse dans cette église, le premier meeting, c'était elle qui était là, son livre ouvert, à prendre des notes. « Yves, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et vraiment, elle a ouvert la voie pour que toute une génération nous voie et dise « On fait confiance à la jeune génération. » On fait confiance à la jeune génération. On croit qu'ils ont quelque chose à nous apporter. C'est le temps qu'ils se lèvent et puis qu'ils fassent ce qu'il faut. Moi, j'ai eu une Marie-Marthe dans ma vie. C'est fou ce que ça a fait pour moi dans le ministère. J'ai eu une femme, elle s'appelle Paul. Les noms. Paul.
J'arrive dans cette église-là, c'était pas dans l'église où j'étais avant, j'arrive dans cette église et j'étais un peu fatigué. Je devais prêcher dans cette église et c'était une veillée de prière et je devais prêcher à 11h. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé une prédication à 11h du soir, c'est compliqué. Je me disais, est-ce qu'il y aura encore des gens motivés? Est-ce que les gens seront encore... Et là, juste avant, c'était comme un non-stop, prière, prédication, louange, prière, prédication, louange. Donc là, il y a la louange. Et je dis, Seigneur, donne-moi la force, moi j'ai envie de dormir. J'ai des jeunes enfants, je suis fatigué. Et je lève les yeux et je vois une dame, littéralement à 1,5 mètre de la scène, dans la louange. Elle commence à le chanter, elle tape des mains. Je dis, mais cette dame, quelle énergie cette dame-là? Moi, je suis assis, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Quand vous voyez des gens comme ça, vous vous sentez obligé. Je me lève quand même, je tape un peu des mains. Je dis, et je me mets à prêcher. 11h. Je vois qu'elle sort son livre, elle sort ses lunettes, elle commence à écrire, elle écrit. Voilà qu'elle vient me voir à 00h15. Quand tu as parlé de ce point, c'est incroyable. Dieu m'a révélé quelque chose. On va y aller, ramener la louange. Elle recommence. Elle commence à chanter. Le lendemain, à 8h, on repartait. J'arrive à 8h, premier rang. C'était Paul qui était là. Et elle vient vers moi et elle me dit, je prie pour mes petits-enfants, qu'ils soient comme toi. Je dis, dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé, les amis. Je dis, moi, quand je serai âgé, j'ai envie d'être comme toi. J'ai envie que mes petits-enfants me voient à 00h15, le premier rang, taper des mains, danser, chanter. Elle m'a montré le dimanche, elle m'a montré le dimanche, voilà, ça c'est ma fille, ça c'est ma petite fille, c'est pour eux que je prie, j'ai une autre fille à tel endroit. Je dis, mais quelle énergie. Moi, c'est parce que j'ai des exemples comme ça que je me tiens et c'est ça qui me donne envie de continuer. Ces histoires, c'est pour moi des illustrations du cœur de Dieu. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est mon deuxième point, Dieu se révèle avec une révélation qu'on connaît mais qu'on oublie parfois. On nous dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez déjà entendu ça? Si vous lisez l'Ancien Testament, c'est impossible de passer à côté, c'est sa révélation. À partir des patriarches, c'est comme ça qu'il est appelé le plus souvent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a un sens profond à ça. Ça veut dire que Dieu ne veut pas être simplement le Dieu d'une génération. De la même façon qu'on ne peut pas être simplement l'église d'une génération, ce n'est pas possible. Dieu veut être le Dieu de ta génération, mais il veut être aussi celui de la génération qui te précède et il veut être aussi celui de la génération qui vient après toi. Donc toi, tu es obligé, que si tu sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu ne peux pas penser qu'à ta génération. Tu es obligé de voir, il y a une génération avant moi, il y a une génération après moi. Ce n'est pas seulement Moïse et Josué. Si vous regardez la Bible, vous allez voir ce modèle encore et encore et encore. Là, peut-être, je donne des noms puis vous ne les connaissez pas. Mais dans l'Ancien Testament, il y a une femme qui s'appelle Esther. Elle a un livre après son nom, Esther. Mais vous savez quoi, les amis, il n'y aurait pas Esther sans Mardoché. C'est parce qu'il y a un gars du nom de Mardoché qui l'a recueilli et qui a été comme un père pour elle alors qu'il n'était pas son père physique que Esther a pu devenir la reine qu'elle est devenue. La Bible est un peu plus claire là-dessus. Si vous voulez la double portion d'Élisée, il faut savoir qu'il y avait un Élie dans la vie d'Élisée. Et qu'on ne peut pas avoir la double portion d'Élisée s'il n'y a pas un Élie dans la vie. Et ça, c'est encore une chose qu'on voit. Si vous voulez aller dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas avoir Paul du Nouveau Testament sans un Barnabas dans sa vie. Et c'est seulement un Barnabas qui met dans la vie de Paul tout ce qu'il peut mettre, et Paul qui va mettre tout ce qu'il peut mettre dans la vie d'un Timothée qui fait les églises du Nouveau Testament telles qu'on les lit aujourd'hui. C'est une méthode que Dieu a de tout temps. Malheureusement, on arrive dans un temps, je l'ai dit au début, où on est dans les crises et dans les divisions, et où l'état d'esprit du monde commence à venir dans l'Église. Et l'état d'esprit du monde qui nous dit « Ah, les vieux, ah, les jeunes », on commence à l'avoir dans l'Église. Dans les Églises, « Ah bon, ben, on va faire les services pour les vieux, et puis bon, on va faire les services pour les jeunes. » Non, non, ça ne marche pas comme ça. Pas dans le royaume de Dieu, les amis. Il y a beaucoup d'arrogance dans nos attitudes quand on est comme ça. C'est un manque profond d'humilité. Il est temps qu'on revienne à beaucoup plus d'humilité, qu'on dise « Seigneur, pardon, j'ai besoin de la génération qui me précède. » Et il y a besoin qu'on ait l'humilité de dire « Ok, j'ai eu mon temps, merci Seigneur, maintenant je vais prendre soin de la génération après moi. Comment est-ce que je peux me lever? Comment est-ce que je peux me positionner? Comment est-ce que je peux être présent pour la génération après moi ?» Imaginez un instant Moïse qui dit « Bon, écoute, c'est des guerriers, la guerre c'est ton truc de jeune là, nous on va se retirer, courage. » Tu m'appelles quand t'as fini. Ou au pire, tu me laisses un message sur Facebook, comme ça. C'est vous faites ça, vous les jeunes, hein, un message sur Facebook, c'est ça? Et imagine que de l'autre côté, Josué lui répond, « Quoi, Facebook? Ok, boomer. » On n'est plus sur Facebook. Moi, je ferai une vidéo TikTok. Imagine qu'on est... N'importe quoi. Becky Johnson, qui est une pasteure à Jesus Culture Sacramento, a dit la chose suivante. Là où tu trouves des personnes déconnectées, tu trouves souvent de l'arrogance. Et n'importe qui a été marié plus d'une semaine sait que c'est vrai. Là où tu trouves des personnes déconnectées, tu trouves souvent de l'arrogance. Ça demande de l'humilité si on veut être connecté. Ça demande suffisamment d'humilité. La jeune génération a besoin de dire, hey, on a besoin de vous qui nous précédez. Mais la génération qui nous précède a besoin de dire, hey, les jeunes, on a besoin de vous. Je crois qu'on devrait pouvoir venir humblement devant Dieu et dire, Seigneur, pardon. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aide-nous à marcher entre les générations. Trop souvent, on veut la terre promise, on veut la réponse à nos prières, on veut toutes ces choses-là, mais on oublie l'importance des relations pour Dieu. Les jeunes veulent les percer. On va changer le monde. Ouais, mais oublie pas la génération qui te précède. Avec qui tu vas changer le monde? Dans quelle attitude tu vas changer le monde? Un jour, tu vas devenir vieux, hein? Un jour, tu vas devenir vieux. Oublie-le pas. Oublie-le pas. Je m'adresse ici aux plus jeunes, mais la percée que tu attends dans ta vie, peut-être qu'elle est liée au fait d'aller écouter les conseils d'un Moïse ou d'un Mardoché. Peut-être que tu pries depuis longtemps, hey, j'ai envie de cette percée, je crois qu'il y a une terre promise pour moi, il y a quelque chose. Puis peut-être qu'au travers de ce message, Dieu est en train de te dire, va t'asseoir vers un Moïse ou une Mardoché. Va t'asseoir vers quelqu'un de plus âgé. Écoute un petit peu. Mais je m'adresse aussi aux plus âgés. Il est peut-être temps d'aller vers la jeune génération, s'enquérir. Comment ça va, vous? Il y a une histoire de... Esther et Mardoché, c'est parmi les histoires qui m'impactent le plus. On nous dit que Mardoché allait chaque jour vers le temple et puis qu'il faisait comme les 100 pas, s'enquérir. Comment ça va, Esther? Comment ça va, Esther? Et c'est sûr qu'il n'avait pas tous les jours des nouvelles, mais il ne s'arrêtait pas d'aller pour autant. Parfois, on veut tellement la percée, la victoire, je me demande si seulement on était capable de réaliser l'importance d'être intergénérationnel pour vivre cette percée. La sécurité et la victoire dépendent de l'intergénération. Et on doit redécouvrir ce que ça signifie de servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, la sagesse, le courage et la force viennent aussi de l'intergénération. Une des choses importantes qu'on a dans cette histoire, c'est aussi comment est-ce que l'ancienne génération a couvert la jeune génération. Et là, je parle d'une couverture spirituelle, je parle d'un positionnement de cœur qui est très, très important. Je pense qu'une des choses les plus importantes et puissantes que l'ancienne génération peut faire, c'est de couvrir la nouvelle génération dans la prière. Vous voyez cette posture de Moïse qui prie pour la jeune génération, qui prend de la hauteur, qui prie. Ça, c'est une posture extrêmement importante de l'ancienne génération. Tous les soirs, je répète une phrase à mes enfants, individuellement. À chaque soir, je leur dis bonne nuit. C'est vraiment une majorité des soirs, je suis à la maison et je leur dis bonne nuit. Et je leur dis, tu es beau, fort, intelligent et aimé. Et pour mes filles, je leur dis, tu es belle, forte, intelligente, aimée. Et c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement. Et j'ai envie qu'ils le sachent et qu'ils l'impriment. J'ai envie que ça s'imprime dans leur cœur, dans leur tête, que ça soit connu. Je sais que c'est répétitif. J'ai envie qu'ils le sachent. Parce que je sais, les amis, que la vie va les faire douter de ça. Je sais que la vie va les faire douter de ça. Je suis convaincu. Je sais que l'école va les faire douter de ça. Je sais que les amis à l'école, je sais que les réseaux sociaux vont les faire douter de ça. Je sais que l'ennemi de leurs âmes va chercher à les faire douter de ça. C'est pour ça que depuis qu'ils sont nés, je leur dis ça chaque soir. Et quand ils étaient petits, encore nourrissons, je leur disais plusieurs fois par jour. Je sais au passage qu'ils vont faire des erreurs et des bêtises. Je sais que mon rôle, c'est aussi de les reprendre. Mais je veux par-dessus tout qu'ils sachent. Vous êtes aimés, vous êtes forts, vous êtes intelligents, vous êtes beaux, vous êtes capables. Ça, j'ai envie qu'ils l'entendent plus que tout. Et j'ai envie que ce soit ça le plus important. Alors j'ai fait le calcul pour ma fille aînée qui s'appelle Elisha, qui a aujourd'hui 8 ans. Et elle a vécu 2681 jours. Je pense, sans déconner, que j'ai dû lui dire plus de 2600 fois. Tu es aimée, belle, forte et intelligente. Et chaque soir, hier soir encore, je suis allé lui le dire et elle le répète avec moi. Elle le sait, elle l'a imprimé, elle connaît ça par cœur. Elle, si je ne le dis pas, c'est bizarre pour elle. Elle le sait. Si vous avez vécu avec nous un minimum, vous savez que je l'ai reprise également. Il y a des fois qu'elle a fait des choses, je lui ai dit non, Elisha, tu ne peux pas faire ça, arrête. Elisha, reviens ici, demande pardon pour ça. Elisha, on ne fait pas comme ça. Elisha, on a besoin de ton aide. J'ai fait toutes ces choses-là. Je l'ai reprise, on a eu des disputes, je lui ai fait des reproches. Mais si n'importe qui d'entre vous va lui demander, est-ce que ton père t'aime? Bien sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Il me le dit tous les jours. Je suis aimée, forte, belle et intelligente. Et j'ai envie qu'elle l'entende et j'ai envie que ça continue. Vous savez, quand les enfants arrivent dans l'adolescence, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est fou là. Les enjeux, c'est fou. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on a eu, à cause notamment de l'évolution technologique, ça n'a rien à voir avec ce que nous on a eu. Et ça ne sert à rien qu'on essaye de courir et puis... Non. Par contre, on peut les couvrir. On peut leur dire, hey, tu es aimé. Quoi qu'il arrive, tu sais quoi, je vais me tenir dans ton coin. Je serai toujours là pour toi, tu pourras toujours venir vers moi. J'ai aucune idée de ce que tu dois passer chaque jour à l'école, de comment ça doit se passer, mais sache que je suis pour toi. En tant que père, je veux qu'elle soit remplie de sagesse, de courage, de force, et je crois que ça vient de moi qui couvre mes enfants. Est-ce que tu couvres la jeune génération dans ta prière? Il n'y a pas besoin d'avoir des enfants dans le naturel pour avoir un cœur de père et de mère. Ça, les amis, la semaine prochaine, vous allez en entendre parler. Incroyable. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir des enfants dans le naturel pour avoir ça. C'est une posture de cœur. Est-ce qu'on est prêt à prendre cette posture de cœur? Josué part et va faire exactement ce que Moïse lui a commandé. Et voilà ce que je crois. Je crois que quand tu es couvert par un père ou par une mère qui t'aime, qui prend soin de toi, qui te rappelle, qui t'accompagne, quand cette personne te dit « va faire ça, tu y vas », tu y vas. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne doutes pas de l'amour de cette génération-là. Quand Moïse va dire à Josué, hey, « Hé, Josué, va au combat. » Josué ne s'est pas dit, bah, « Il doit m'utiliser, là. Va au combat toi-même. » Josué n'a pas dû se dire, bah, « Pour qui il se prend? C'est fatigant, le combat. » En plus, là, avec mes potes, je voulais aller. Non. Non, Josué, il dit, « Moïse, t'es mon père. Si tu crois que c'est ce que je dois faire dans ce qu'on est en train de vivre, je vais le faire. » Mais tu sais, la deuxième chose, je pense que Josué n'avait aucun doute que Moïse ferait sa part à lui. Josué avait vu Moïse aller dans la tente. Il avait vu Moïse dans sa relation avec Dieu. Il avait vu Moïse, la Bible nous dit Moïse qui parlait à Dieu face à face. Il avait vu ça. Il a dit, ok, si je vais là-bas, je sais que toi, tu vas faire ta part à toi. Alors si tu fais ta part à toi, j'ai aucun problème de faire ma part à moi. Josué savait que Moïse était un héros de la foi. Mais il savait aussi que Moïse était un père pour lui. Et du coup, il a pu lui faire confiance. Et là, je m'adresse de nouveau à l'ancienne génération. Est-ce que vous êtes prêts à être à la fois des héros de la foi, mais également des parents dans la foi? De couvrir, de rire avec, de prier, de se tenir avec. Malheureusement, aujourd'hui, on a souvent une génération qui est la jeune génération, qui vit des enjeux, qui vit des crises, qui vit des situations compliquées, mais qui n'est pas tellement couverte. Pas tellement couverte. Elle est critiquée. Elle est reprochée. Avec ton look de naze, avec vos réseaux sociaux des jeunes, avec... Pas étonnant qu'il n'y a pas de percée, les amis. Pas étonnant. C'est un reflet de notre positionnement face à eux. Des fois, j'entends l'ancienne génération dire « Oh, les jeunes ci, les jeunes ça, les... » Et j'ai envie de dire « Mais prends ta place, alors. Prends ta place. » Ça, c'est un signe de maturité. Petite parenthèse, ça, c'est un signe de maturité quand tu prends ta place. En tant que parent, quand mes enfants font des bêtises, la première des choses, c'est qu'on arrête, surtout quand il y a des dangers. Là. On arrête tout ce qu'on fait. Venez ici, moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Venez ici, asseyez-vous. Après, j'analyse ce qui s'est passé, j'écoute les avis, tout ça, je mets ça au clair. Puis après, je renvoie mes enfants. Il y a souvent une décision qui est prise par rapport à ce qui a été vécu. Mais là s'ouvre un troisième temps. Et ce troisième temps, c'est moi qui me pose la question, quelle est ma responsabilité face à tout ce qui s'est passé là? Et souvent, je dis à mes enfants, vous m'entendez parler comme ça? Non, alors vous ne parlez pas comme ça. J'ai une responsabilité dans comment ils vont faire. Mais aujourd'hui, on a souvent dans la société, beaucoup de doigts pointés vers la jeune génération, mais peu de responsabilité de la génération qui précède. Quel est notre part à nous dans tout ça? C'est important qu'on se tienne, les amis, c'est important qu'on soit là. C'est une folie ce qui se passe pour les jeunes. au travers du fait que je travaille avec beaucoup de jeunes et beaucoup de la jeunesse, je vois des enjeux, je me dis, combien de fois j'ai dit à ma femme, je suis tellement reconnaissant. À l'époque où nous, on était à l'école, c'était facile. Quand je vois ce qu'eux, ils ont à l'école, j'aimerais pas y être. J'entends certaines histoires, certaines dingueries, j'aimerais pas y être. Mais du coup, j'ai une position à prendre. J'ai une couverture à amener sur cette jeune génération. Et honnêtement, en tant que pasteur, je suis vraiment content pour toutes les personnes âgées qui entourent et qui couvrent cette église. On en a parlé, vous en avez rencontré plusieurs, mais on a un groupe qu'on appelle les vieux singes, pardon, les vieux sages. Ça dépend quand. Des fois parce qu'on les aime fort, on les appelle les vieux singes, puis des fois parce qu'on les aime encore plus fort, on les appelle les vieux sages. Mais c'est tous des pasteurs qui sont, des couples pastoraux qui sont soit à la retraite, soit sur le bord d'arriver à la retraite, mais qui nous couvrent en tant qu'église. C'est un privilège énorme. Quand il y a un doute, quand il y a une situation, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'ai un téléphone. Pierre, Stéphane, Jean-Luc, juste aidez-moi un instant. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas comment faire ici. Ce n'était pas possible. Quand on a commencé Home, pour moi, ce n'était pas possible si je n'avais pas ce genre de figure dans ma vie. Et je me souviens que je disais à Dieu, si on doit commencer une église, envoie un père dans ma vie. Et il a envoyé plusieurs parents, une armée de parents dans nos vies. Et il n'y a pas si longtemps, on fêtait les 7 ans. Et puis le week-end d'après, les 7 ans de Home Lausanne, et le week-end d'après, on a fêté les 1 an de Home Genève. Et j'ai envoyé à un de ses parents qui est en Angleterre les photos. Je dis merci d'avoir cru en nous. Regarde, on est en train de vivre ça, on est en train de faire. Et sa réponse était tellement belle, tellement simple. Yves, on continue à prier pour vous. On est fiers de ce que vous vivez. On se tient avec vous. Mais on a besoin de ça, les amis. On a besoin de ça. Toi, tu as besoin de ça dans ta vie. Tu as besoin d'une Marie-Marthe dans ta vie. Tu as besoin d'une Léa et d'une Marthe dans ta vie. Tu as besoin d'une Paul dans ta vie. Tu as besoin de parents biologiques dans ta vie. On a besoin de tout ça. Et ça va prendre que nous, on se tourne vers eux aussi. Mes parents biologiques, c'est mes super-héros pour moi. Le nombre de coups qu'ils ont pris à cause de ma folie à moi. Dans l'église, hors de l'église, plusieurs fois depuis que je suis devenu parent, je suis allé vers ma mère en disant comment tu as fait ? Comment est-ce que tu as survécu, maman ? Pardon. Plusieurs fois, je lui ai dit, maman, pardon. On était fous. On était complètement dingues. C'est n'importe quoi. Et je lui demandais, parce que, voilà, on se parlait comme ça. Et je lui disais, comment tu faisais le soir quand aucun d'entre nous en était là ? Comment tu pouvais aller sereinement au lit ? Et elle m'a dit, quand est-ce que je suis allé sereinement au lit ? Et je me suis rappelé le nombre de fois où je rentrais milieu de la nuit, tôt le matin, qu'ils étaient là. Et ma mère qui disait, oh, j'ai pas beaucoup dormi la nuit passée. J'étais là, bah t'as qu'à dormir. C'est du haut de ma bêtise d'adolescent. Vous faites rien, vous avez qu'à dormir de toute façon. Mais en fait, ils me couvraient dans la prière. Et un jour, je demandais à ma mère, mais comment vous avez fait ? Et elle a dit, je me suis toujours accroché à ce que Dieu nous a dit pour vous. Et dans les moments les plus difficiles, je disais simplement à Dieu, c'est tes enfants, c'est pas les miens. C'est toi qui les as désirés avant moi. Et je dis, mais maman ! Elle disait, non, c'est Dieu qui nous a confiés, mais c'est lui qui vous voulait avant nous. C'est lui qui vous connaissait avant nous. Et il nous a fait des promesses. Alors je lui rappelais ses promesses. Il disait, Seigneur, tu te souviens de ce que tu m'as dit pour mes enfants ? Bah, tu te débrouilles pour que ça arrive. Mais j'ai commencé à avoir la même attitude. Je disais, je vieillis, j'ai commencé à avoir la même attitude. Il y a des situations où je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit une histoire là, maintenant, écoute, moi je fais ce que je peux, mais c'est toi qui dois faire ça. J'aimerais conclure, puis les musiciens, vous pouvez revenir. Les deux dernières phrases qu'on a lues au départ, c'est les suivantes. Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil, et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. En lisant ça, je me dis, qui a gagné la bataille ? Josué, la réponse elle est là, Josué a été vainqueur, c'est Josué. Mais pourquoi ? Parce que Moïse était avec lui les bras levés. La percée, les amis, elle va être quand on se tient entre générations. Alors, je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire de ce message ? Puis c'est juste le premier de toute une série sur les générations. J'ai vraiment envie de vous encourager. La semaine prochaine, c'est un grand-père dans la foi pour moi qui sera là. Moi, je suis tellement frustré de ne pas pouvoir être là. Plusieurs, vous avez peut-être entendu son nom, c'est Tom Pansy qui va venir. Si vous connaissez Tom, c'est mon grand-papa, c'est lui qui nous a mariés avec Janet,
C'est un homme rempli de foi avec son épouse Linda. Ils sont incroyables, des héros de la foi. Mais comment ils nous ont couvert tout du long, toutes ces années-là? Au même moment où les gens me disaient, avec ton look de paumé dans l'église, Tom me voyait avec mes casquettes, puis il m'a dit, « Tu sais pourquoi j'aime les casquettes, moi, Yves ?» Je dis, « Non, pourquoi ?» Ça nous protège toujours du soleil. Et vraiment, je dis, « Ça, c'est une blague de grand-papa, ça. » C'est... Puis en même temps, c'était nouveau pour moi d'avoir quelqu'un qui me disait pas, « Pourquoi t'as ta casquette ?»« T'as un quoi comme look ?» C'est quelqu'un qui m'accueillait simplement comme j'étais. Puis qui n'a pas cessé de m'accueillir comme j'étais tout du long. Puis à chaque fois que je lui dis, hey Tom, j'aurais juste besoin d'aide par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait faire ça? Il me dit toujours, bien sûr, on va regarder, on prie pour vous. Si vous pouvez être là la semaine prochaine, les amis, ne manquez pas ça. Je lui dis, mon plus grand regret, c'est que moi, je ne pourrais pas être là. Je dois prêcher ailleurs la semaine prochaine, mais Tom sera là. Manquez pas ça. Puis la semaine d'après, on va avoir un autre invité encore et on va continuer à parler de l'intergénération. Ils vont vous parler de comment eux, ils ont vécu ça aussi. Comment eux, ils vivent ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et puis, à la fin de cette série, on va faire un culte intergénérationnel. Et là, il y en a certains, les parents, qui se disent, pourquoi on fait ça? C'est ces moments où je peux être calmement sans mes enfants. Et puis, il y a tous les hypersensibles et tout ça qui se disent, on a déjà assez de bruit avec les enfants dans cette salle. Pourquoi ramener plus d'enfants? Et moi, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ça le royaume de Dieu. Et on aime ce qu'on fait pour les enfants. C'est très important qu'il y ait un espace pour qu'on puisse s'adapter à eux, s'adresser à eux, qu'ils puissent grandir. Et si vous parlez avec des jeunes qui sont à Décaté ou à Néos, la jeunesse là, ils vont vous dire comment ils trouvent des grands frères, comment ils sont motivés dans leur foi, comment ça leur donne envie. On va voir une dizaine de baptêmes qui arrivent et la plupart de ces baptêmes, c'est cette jeune génération. Mais on a envie de les accueillir au milieu de nous. Puis on va faire un culte complètement différent. On va bouger les chaises, on va faire tout ça différemment. Pourquoi? Parce que on est ensemble, l'Église. Et on veut jamais l'oublier. À aucun moment, quand on envoie les enfants à leur programme, c'est pour se débarrasser d'eux. À aucun moment. C'est exactement comme dans une famille. Si vous avez fait des repas de Noël, ça c'est repas à rallonge. Pour les adultes, c'est magnifique. On s'assoit, on mange bien, on discute, encore un peu de vin s'il te plaît. Les enfants... Après l'apéritif, ils sont déjà remplis de chips là. Ils ont pris tous les chips qu'ils trouvaient, ils sont gonflés, ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de force. Puis alors après, moi je me souviens, chez mes parents, on faisait la fondue chinoise. Le repas le plus lent du monde. C'est quoi cette idée de mettre ta viande et d'attendre dans un bouillon tiède jusqu'à ce que je puisse enfin prendre la viande? Et moi, quand j'étais enfant, j'étais là, c'est nul, on peut pas mettre toute la viande là-dedans une fois. Et comme ça, je ramasse la viande, je mange 3 morceaux de viande et puis je veux aller jouer avec mes jouets et tout ça. Et c'est pour ça que mes parents, dans leur grande sagesse, ont dit, vous pouvez sortir de table quand vous voulez. Et nous, on passait du temps dans nos chambres, mais on savait que la porte était toujours ouverte. C'est pour ça qu'on veut vivre l'Église ici, les plus jeunes, vous êtes bienvenus ici. Puis quand on les envoie, c'est pas pour se débarrasser d'eux, mais c'est pour leur dire, on a bien conscience que des fois, c'est un peu ennuyeux ce que les adultes y font. C'est normal. Alors on vous fait un programme pour vous. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas ennuyeux. Et puis on n'a pas envie que vous pensiez que Dieu, il est ennuyeux. Mais à la fin de cette série, on fera un culte intergénérationnel. Et je compte sur vous. Que vous soyez là pour couvrir cette génération. Ne vous dites surtout pas, ah bon, c'est l'occasion de ne pas venir. Non, non, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Non, mais je dis ça parce que des fois, on est comme ça. Hein. Ah bon, mais s'il n'y a pas le message, alors bon, c'est pas pour moi. Non, c'est pour eux. Et d'ailleurs, c'est peut-être le temps que ce soit plus pour toi, mais que ce soit pour eux, en fait. C'est comme ça qu'on veut façonner l'Église. Alors, je ne sais pas individuellement ce que tu vas faire de ce message. Je sais ce qui s'en vient et je suis profondément impatient de grandir dans cette dimension, d'être une Église pour toutes les générations. Une Église où les générations se tiennent ensemble et entrent ensemble dans ce que Dieu a pour eux. Une Église où tout le monde qui est mature en Christ réalise qu'il est parent en Christ. Indépendamment de sa situation maritale, indépendamment de sa situation biologique, vous êtes tous invités à devenir des parents. Je me réjouis qu'on vive ça.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.